Place au journal des Amériques et d'Haïti, Anne Verdaguer, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Dans cette édition du Journal des Amériques, on va bien sûr revenir sur l'épidémie de coronavirus qui n'en finit pas de s'étendre aux États-Unis. En Californie, on reconfine, alors qu'en Arizona, dans un état qui est l'un des épicentres de l'épidémie, le gouverneur républicain est critiqué car il refuse de rendre le port du masque obligatoire. On reviendra aussi sur la situation en Colombie, où les habitants de deux grandes villes, Bogota et Medellín, sont reconfinés depuis hier. On vous parlera de cette autre épidémie, ou épidémie d'un autre genre, au Mexique, les portés disparus. Ils sont 61 000 à avoir disparu dans le pays depuis 2006 et on verra que les recherches pour les familles sont rendues encore plus difficiles en ces temps de pandémie. En Haïti, si les autorités observent une diminution des cas de contamination au coronavirus, les violences sexuelles et physiques sur les femmes sont en hausse. On en parlera avec Godson Pierre, notre confrère d'Alter Press. Aux États-Unis, le coronavirus est donc toujours hors de contrôle. Ce sont les autorités locales en Floride qui le disent. Les cas de Covid-19 continuent d'augmenter dans de nombreux états du sud du pays, et notamment en Arizona, devenu l'un des épicentres de l'épidémie depuis que l'État a levé le confinement le 8 mai dernier. Le gouverneur républicain de cet état n'a toujours pas rendu le port du masque obligatoire, ce qui suscite la colère de la maire démocrate de Phoenix, qui lui réclame pourtant cette interdiction pour ralentir l'épidémie, tout comme certaines familles de victimes. Le reportage à Phoenix de notre envoyé spécial Eric De Salve.
Aux obsèques de son père mercredi, Christine Urquiza a invité le gouverneur républicain de l'Arizona. La jeune femme voulait, dit-elle, lui montrer le résultat de sa politique face au coronavirus. Son père, un ouvrier latino de 65 ans, a contracté le Covid-19 deux semaines après la levée hâtive du confinement en Arizona. Il en est mort trois semaines après, tout seul dans une chambre d'hôpital de Phoenix. Le gouverneur est responsable de sa mort, selon Christine, pour avoir déconfiné trop tôt et trop vite.
La mort de mon père aurait pu être évitée. C'est juste le résultat d'une politique désastreuse du gouverneur, qui lui-même suit la ligne du président Trump. Mon père croyait que c'était sûr de retourner au restaurant, de sortir avec des amis, juste parce que les autorités disaient que c'était sûr quand l'Arizona a déconfiné. Donc pour moi, le gouverneur a du sang sur les mains. S'il écoutait la science et les épidémiologistes, on n'en serait pas là.
L'Arizona a été l'un des premiers États à sortir du confinement début mai. Deux mois plus tard, il enregistre le taux de contamination le plus élevé des États-Unis. Eric De Salve, Phoenix, RFI.
Bonjour Marie Normand.
Bonjour Anne.
La revue de presse des Amériques avec vous et direction tout de suite la Californie.
Today we are announcing additional statewide actions as it relates to our state.
Voilà, on entend le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui annonce hier le reconfinement d'une grande partie de l'État. Marie, qu'est-ce que cela veut dire concrètement, cette forme modifiée de confinement ?
Alors concrètement, le gouverneur revient en fait sur la timide réouverture de l'économie ces dernières semaines. Il ferme à nouveau à l'échelle de l'État les salles intérieures des restaurants, les bars, les zoos, les musées. Et puis 29 comtés, Anne, sont particulièrement sous surveillance. Et ces comtés qui rassemblent 80% de la population californienne selon le Los Angeles Times doivent aussi fermer les salons de coiffure, les lieux de culte ou encore les salles de gym et toutes les entreprises jugées non essentielles.
Et alors un seul comté de Californie n'est pas encore touché par le coronavirus.
Oui, c'est ce qu'écrit le San Francisco Gate. Il s'agit de Modoc, un comté rural et peu peuplé à l'extrême nord-est de la Californie. Résultat, ces 9000 habitants étaient réticents lorsque la Californie a décidé un premier confinement mi-mars. Le shérif de Modoc est aussi le premier à avoir refusé d'appliquer l'ordre du gouverneur de porter un masque dans tous les lieux publics, avec toujours ce débat, bien sûr, faut-il protéger les plus vulnérables ou l'économie du pays. Le New York Times note qu'aujourd'hui, en perdant leur emploi depuis le début de la crise sanitaire, 5 400 000 Américains ont aussi perdu leur assurance santé. Et c'est ce que dit une étude publiée ce mardi par un organisme de défense des consommateurs.
Alors, on parlait de la situation en Arizona tout à l'heure, mais au Texas, le gouverneur a lui une nouvelle fois refusé d'autoriser les villes les plus touchées à remettre en place des mesures de confinement.
Et il a aussi, explique le Houston Chronicle, retardé l'arrivée de renforts en personnel médical qui devait être déployé au Texas par le ministère de la Défense pour aider les soignants. Et les hôpitaux sont saturés, c'est le cas aussi de certaines morgues. El Paso Times raconte que plusieurs comtés ont prévu ou réfléchissent en ce moment à se munir de camions réfrigérants pour entreposer provisoirement les corps des personnes décédées. Près de 40% des décès au Texas viennent de résidences pour personnes âgées, de prisons. Ce sont aussi des employés d'usines de conditionnement de la viande, nous dit le journal. Signe encourageant, explique le Houston Chronicle. Les hospitalisations ont tendance ces derniers jours à globalement stagner, voire à diminuer.
Et dans ce contexte, Marie, Donald Trump, le président américain, n'a pas parlé directement depuis plus d'un mois à l'un des principaux experts de sa cellule de crise contre le coronavirus. J'ai nommé le médecin épidémiologiste Anthony Fauci.
Et ce week-end, le Washington Post expliquait que la relation entre le président et ce scientifique s'était détériorée et qu'Anthony Fauci donc n'avait pas été reçu par le président depuis début juin. La Maison-Blanche a même fourni au Washington Post des exemples de ce qu'elle qualifiait d'erreurs commises par l'épidémiologiste au sujet de la pandémie et des critiques envoyées sous couvert de l'anonymat à d'autres journalistes, comme l'explique le New York Times.
Et selon la presse américaine, Marie, la Maison-Blanche a tenté ce week-end de discréditer cet expert qui n'a pas hésité à contredire certaines déclarations du président.
Oui, une campagne de discrédit que dénonce le monde médical. Dimanche, par exemple, le responsable des réseaux sociaux de la Maison-Blanche a partagé sur sa page Facebook une caricature se moquant d'Anthony Fauci. Mais pour le New York Times, c'est peine perdue. Hier, lundi, le scientifique a été revu à la Maison-Blanche, ce qui met en évidence, selon le journal, une réalité pour le président et pour ce conseiller scientifique. Bien malgré eux, ils sont coincés l'un avec l'autre.
On reste aux États-Unis, direction Tulsa, en Oklahoma.
Oui, Tulsa, ville théâtre de l'un des plus violents massacres d'Afro-Américains en 1921, plusieurs centaines de morts. Un événement longtemps passé sous silence aux États-Unis, même le nombre total de morts n'est pas connu précisément. Plus de 100 ans après, Anne, c'est ce que nous dit le Washington Post, des fouilles ont commencé dans un cimetière de la ville où un radar a détecté l'an dernier des anomalies qui pourraient correspondre à la présence de fosses communes. Les fouilles avaient été retardées par la pandémie. Elles vont durer environ 2 semaines à la demande du maire de la ville. Je ne veux pas, explique-t-il, que mes enfants grandissent dans une ville où nous pourrions marcher sur des fosses communes et où nous n'avons pas fait tout ce que nous pouvions pour les trouver et pour identifier les victimes.
Et pour finir sur les États-Unis, Marie, j'ajoute que la Cour suprême américaine a autorisé aujourd'hui la reprise des exécutions capitales au niveau fédéral après 17 ans d'interruption, invalidant la décision d'un tribunal de Washington. La première exécution a donc bien eu lieu ce matin dans l'Indiana. Il s'agit du condamné Daniel Lewis Lee, ancien partisan de la suprématie blanche, condamné en 99 à la peine capitale pour le meurtre d'un couple et de leur fillette de 8 ans. Trois autres exécutions sont programmées d'ici la fin du mois d'août aux États-Unis. En Colombie, Marie, les villes de Bogota et de Medellín reconfinent après une augmentation importante des cas de coronavirus.
À Medellín, ce sera sur le modèle 4-3, explique El Tiempo, c'est-à-dire 4 jours d'activité pour 3 jours de quarantaine stricte dans toute la vallée d'Aburra, l'une des vallées les plus peuplées de Colombie. Le pic de l'épidémie qui aura lieu dans les 20 prochains jours sera le plus difficile dans l'histoire de notre ville, a prévenu le maire de Medellín. Reconfinement aussi depuis hier autour de la capitale Bogota, où plus de 2000 cas ont été enregistrés en 24 heures vendredi, explique le média argentin Paris Nadosé. Le procédé là est un peu différent, ce sera un roulement de localités strictement confinées qui changera tous les 15 jours et ce jusqu'au 23 août.
Merci beaucoup Marie Normand pour cette revue de presse des Amériques. C'est l'autre épidémie dont personne ne parle au Mexique. Depuis 2006, c'est le début de la guerre contre le narcotrafic. Plus de 61 000 personnes sont portées disparues dans le pays. Leurs proches désespérés consacrent désormais leur vie entière à les rechercher. Une activité forcément essentielle pour les familles, mais le coronavirus est passé par là, interrompant brutalement les recherches. À Mexico, le reportage de notre correspondante Alix Hardy.
Officiellement, toutes les recherches de disparus sont à l'arrêt et les citoyens priés de rester chez eux. Cela n'empêche pas Maria Isabel Cruz de partir, comme chaque semaine, à la recherche de Yosimar, son fils disparu en 2017 dans l'état de Sinaloa, le berceau du narcotrafic mexicain.
Avec cette pandémie, on prend masque, visière, gants, blouse. Celui qui ne les met pas ne vient pas.
Le collectif de familles de disparus qu'a fondé Maria Isabelle s'est adapté au Covid, mais a refusé d'arrêter les battues dans la région, où il a déjà mis à jour plusieurs fosses clandestines.
Quand vous avez un proche disparu, la douleur vous détruit. Alors ne rien faire pour le chercher, c'est pire. J'ai vu les femmes du collectif dépérir. Alors on a repris les recherches une fois par semaine. C'est une nécessité pour nous.
Jérémy Reynaud fait partie d'IDEAS, une ONG mexicaine qui accompagne les victimes de violations des droits de l'homme. Il s'étonne.
Si les familles de disparus continuent ces recherches et prennent des mesures nécessaires, on se demande pourquoi les autorités ne le font pas. Je pense qu'il y a pas mal d'activités qui pourraient être réalisées en prenant certaines mesures de précaution.
Car les familles sont unanimes. Les autorités sont aux abonnés absents. Santiago Pérez, dont le fils a été assassiné en 2017, a fondé un collectif dans le Nayarit, tout à l'ouest du Mexique.
En l'absence de pandémie, les autorités ne font déjà pas leur travail. Et maintenant, le Covid leur sert à justifier cette absence d'action. Pour les familles, c'est très difficile. Lorsqu'elles vont signaler une disparition, on les renvoie chez elles. Et quand par chance on s'occupe d'elles, le dossier reste sans suite. Ils disent « Bon, je prends votre déposition, mais on va devoir attendre la fin de la pandémie pour s'en occuper. » Le gouvernement ne comprend pas que chaque seconde compte pour retrouver nos disparus qui sont encore en vie.
Les familles de disparus ont également été parmi les premiers touchés au portefeuille par la pandémie. Car la perte d'un proche est toujours un gouffre financier, explique Emma Mora Liberato, fondatrice d'une organisation à Acapulco. Il en faut peu, ensuite, pour faire basculer ces familles précaires dans la misère. En plein confinement, 26 familles de son collectif se sont retrouvées privées d'électricité à cause de leurs impayés.
Quand un proche disparaît, tu dois participer aux recherches, aller au rendez-vous des autorités. En général, ton chef se lasse de tes absences et tu es renvoyé. Tu finis serveur, cuisinier, tu nettoies les pare-brises au feu rouge. Avec la pandémie, ce sont les premiers boulots qui ont disparu. Hier, j'ai parlé à une dame du collectif qui n'avait pas de quoi se payer le bus pour aller à la pharmacie. Je n'ose pas imaginer ce qui lui reste pour manger.
En mai, l'ONG IDEAS a mené une étude auprès des familles pour évaluer l'impact du Covid sur leur situation.
Tous ces problèmes qui existaient avant la crise sanitaire s'amplifient et la réponse des autorités est presque nulle. 73% des personnes interrogées disent que depuis le début de la crise sanitaire, elles n'ont reçu aucun soutien des autorités, que ce soit au niveau économique, psychologique ou soutien juridique.
Une situation d'autant plus préoccupante que la pandémie n'a pas freiné la violence au Mexique, signale Emma Mora Liberato depuis Acapulco.
Ça m'a laissé stupéfaite de voir que ça ne s'arrêtait pas pendant le confinement. Il y a toujours plus de disparus. C'est terrible.
Selon les chiffres de la Commission nationale de recherche, rien qu'en mars et avril, 237 personnes ont été portées disparues. Alix Hardy, Mexico, RFI.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Comme tous les mardis, on retrouve Godson Pierre, notre confrère d'Alter Press en Haïti. Bonjour Godson.
Bonjour Anne.
Et tout d'abord, sur le front de la lutte contre le Covid-19, les autorités haïtiennes observent une diminution des cas de contamination et annoncent l'installation de centres de dépistage en dehors de la capitale.
Eh bien, diminution en moyenne de 20% des nouveaux cas confirmés, selon la ministre de la Santé, Greta Roy Clément. Elle précise aussi que 113 des 146 communes du pays sont touchées par la pandémie, plus de 6700 personnes officiellement infectées, dont 189 morts. En plus de ces centres de dépistage à Port-au-Prince, les tests peuvent être maintenant effectués à l'île de la Gonâve dans le département de l'Ouest. Les départements du Nord, du Sud et du Centre disposent également désormais de moyens pour réaliser des tests, selon la ministre. Les autorités constatent cependant un relâchement de la population par rapport au respect des mesures barrières et sollicite l'aide de la presse pour faire comprendre à la population que l'épidémie est encore présente dans le pays.
Autre sujet, depuis le début de la crise sanitaire, Godson, les violences sexuelles et physiques envers les femmes ont augmenté dans le nord-est d'Haïti. C'est le constat des autorités locales. Comment l'explique-t-elle?
L'assistante coordonnatrice du bureau départemental du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes dans le nord-est, Josny Jean-Ferdinand, émet l'hypothèse selon laquelle ce phénomène serait dû au confinement. Les hommes passent plus de temps à la maison. Elle précise que les violences physiques contraignent les femmes à porter plainte tous les jours jusqu'à 5 cas sont enregistrés quotidiennement au niveau du bureau départemental du ministère à la condition féminine à Fort Liberté dans le Nord-Est.
La crise sanitaire qui a aussi un impact très lourd sur l'éducation en Haïti.
Oui, la pandémie a provoqué un désastre mondial sur l'éducation. C'est ce qu'évalue l'ex-sénateur Maxime Roumer, qui est aussi recteur de l'Université Nouvelle Grandence Unoga à Jérémie. Les contre-coups sont sévères pour cet établissement situé dans un milieu rural très isolé, indique-t-il.
Et puis enfin, Godson, dans ce contexte de pandémie, les affrontements entre membres de gangs se poursuivent à Cité Soleil. Hier, un bébé de 8 mois a été mortellement touché par balle.
Cela s'est passé dans le quartier de Bélékou lors d'affrontements entre groupes rivaux, avons-nous appris. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine, déclare avoir demandé à la direction centrale de la police judiciaire de mener une enquête sur les circonstances de la mort de cet enfant, un décès qui a provoqué évidemment la consternation et l'émoi chez les parents, les proches, mais aussi sur les riverains et parmi les secteurs de droits humains. Depuis plusieurs semaines, des tirs d'armes sont redevenus légion dans la grande agglomération populaire de Cité-Soleil où des gangs armés cherchent à imposer leurs lois en vue de contrôler les différents quartiers dans cette commune.
Merci beaucoup Godson Pierre, rédacteur en chef d'Alter Press en Haïti. L'actualité des Outre-mer à présent avec le journal La Première Caraïbe présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une en ce 14 juillet, un CHU, centre hospitalier universitaire en Guyane. La revendication a une nouvelle fois été présentée ce dimanche au ministre de la Santé et au Premier ministre.
Oui, c'est une vieille revendication que la crise sanitaire n'a évidemment fait que remettre au premier plan. Alors dimanche, il y avait sur place et en même temps, c'est le cas de le dire, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran. Ça n'arrivera pas tous les jours. L'occasion était donc belle de leur soumettre le projet, un projet sur lequel le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui lui est resté un jour de plus sur place, est revenu hier au micro de Clotilde Séraphin-Georges.
C'est un projet porté par les élus, de voir monter en puissance le centre hospitalier de Cayenne. Moi, je comprends les élus de la Guyane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et en ce moment, il y a beaucoup de renforts sanitaires, il y a beaucoup de moyens qui sont mis, puis demain, le virus, je le souhaite le plus vite possible, va disparaître. Et il y aura toujours cet enjeu de déserts médicaux, cet enjeu de la démographie médicale. Et donc, les élus se battent pour essayer de dessiner un certain nombre de projets, médecine de proximité, y compris sur les communes qui sont le long des grands fleuves, mais également ici à Cayenne. Donc le ministre de la Santé et des Solidarités s'est engagé à expertiser les propositions que les élus pourront faire, y compris sur la montée en puissance du centre hospitalier de Cayenne.
Direction la Guadeloupe maintenant avec cette question. Le SIAG va-t-il disparaître? Créé il y a 57 ans, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe serait menacé à très court terme maintenant de dissolution pure et simple. Éric Stimfling.
Philippe Gustin, qui n'est plus préfet de Guadeloupe, rencontre ce matin les élus en charge du dossier de l'eau. Une rencontre présentée comme informelle, au cours de laquelle il devrait être question de la dissolution du SIAG. Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe serait désormais en état de mort clinique ou peu s'en faut. Le SIAG traîne en effet toujours une dette fournisseur de 37 millions d'euros. Les recettes seraient en baisse. Les retards d'acheminement de la poste en raison de la pandémie sont venus s'ajouter aux réticences de nombreux clients à régler leurs factures. Des recettes dont le recouvrement est d'ailleurs assuré par le Trésor public depuis le 1er mai. Sur le plan opérationnel, c'est la préfecture qui a pris la main depuis le 30 avril avec l'opération Coup de poing qui a déjà permis de détecter et de réparer plusieurs centaines de fuites d'eau. Bref, aujourd'hui, le SIAG se contente d'assurer les affaires courantes. Et cela se résume à payer les salaires de ses 150 salariés. Autant dire que le compte n'y est pas, d'autant que les fameux tours d'eau, eux, se poursuivent toujours.
Oui, rappelons que l'ex-préfet de la Guadeloupe, Philippe Gustin, va prendre son poste de directeur de directeur de cabinet du nouveau ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Bon après-midi, Anne. À demain.
Merci pour ces précisions. À demain, Benoît Ferrand, et très bon après-midi à vous. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain, 15h10, heure de Paris, 9h10, heure de Port-au-Prince. Soyez au rendez-vous. Très bonne journée à tous.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.